L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, c'est toujours l'atelier numérique sur BFM Business, comme chaque samedi, 16h-18h. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, notre French Tech Tour, notre World Tour. Nous irons du côté de l'Algérie tout à l'heure. Et puis, la rédaction de 0net.com, bien évidemment, avec les gros titres d'actualité que vous avez pu lire cette semaine sur 01net. Mais dans l'immédiat, avec Lila Megraoué, notre invitée, c'est l'heure de notre passion selon Sanet. Comme chaque samedi, notre hyperconnexion nous rendrait-elle vulnérables, Lila?
Bah oui, parce que selon une étude du cabinet PwC en 2015, les cyberattaques auraient augmenté dans le monde de 38%. Entreprises, domiciles et demain peut-être les villes sont ou seront la cible de ces attaques. Alors notre invité a mené l'enquête. Blaise Mao, bonjour.
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 Alors Blaise Mao, vous êtes rédacteur en chef du magazine Uzbek Erika et vous êtes également co-auteur de Cyberfragile. Enquête sur les dangers de nos vies connectées, parue aux éditions Talendier. Alors pourquoi l'écriture de ce livre?
Uzbek Erika, c'est le magazine qui explore le futur. On parle beaucoup de nouvelles technologies et à force de faire des articles sur le sujet, on s'est dit il faut aller du côté explorer du côté de la cybersécurité, qui est un sujet en pleine expansion. C'est assez anxiogène au départ quand on met le nez là-dedans. Les chiffres font peur, mais le constat est là. Plus on est connecté, plus on est vulnérable. Et on n'est plus dans le monde d'il y a 10, 15 ans avec le petit ordinateur personnel, l'antivirus qu'on pouvait installer. Maintenant, on est sur une multitude de supports, d'objets connectés.
Le mobile notamment.
Voilà, et le mobile est le premier des objets connectés. On n'y pense pas en tant qu'objet connecté, mais notre smartphone est bien un objet connecté et c'est une des cibles principales aujourd'hui des cyberattaques. Donc voilà, c'est menace exponentielle et on avait envie de comprendre qui étaient les pirates, d'où viennent les attaques, quelle forme elles prennent.
Et surtout pourquoi aussi.
Pourquoi, bien sûr, l'argent, premier motif, toujours, revendre de la donnée personnelle, nuire à la e-réputation d'une personne aussi. Et surtout, comment nous, citoyens, on pouvait un petit peu rentrer dans un nouvel âge numérique. C'est-à-dire que pendant 2007-2015, c'était un peu un premier âge numérique, très confortable. On était un peu fascinés par tous ces devices, tous ces appareils, toutes ces possibilités. On a un peu un rapport quasi magique à la technologie. Et là, dans le livre, à la fin, on essaie quand même d'expliquer qu'il est grand temps de reprendre la main sur nos vies numériques, donc de se réapproprier la technologie.
Alors, vous citez Henri de Castries, patron d'AXA, dans votre livre.
Ex-patron, je crois qu'il vient de...
Alors, ex-patron. Ouais.
Mais il vient tout juste, c'est tout frais, je crois.
Autant pour moi, le cyber-risque est le seul risque qui puisse m'empêcher de dormir. Alors, les entreprises sont, semble-t-il, les premières cibles de ces attaques. Est-ce qu'elles sont parées, les entreprises, aujourd'hui, de ce que vous avez observé? Est-ce que ces attaques, elles viennent en frontal? Elles viennent de l'intérieur?
Elles sont en partie parées, mais la révolution numérique est tellement rapide et la diversité des formes d'attaques est tellement importante que c'est très difficile d'avoir une réponse à la hauteur de la menace. Pour prendre un exemple très simple, il y a en 90 ou même encore en 95-2000, une petite PME, elle avait quoi, 10-20 postes de travail. C'était assez simple de périmétrer le système informatique d'une petite entreprise. On savait comment la défendre, quelle défense installer. Aujourd'hui, en fait, on travaille dans notre lit le soir, on travaille sur notre téléphone perso, on a aussi un téléphone pro, on fait transiter des données personnelles.
Les points d'entrée sont beaucoup plus nombreux, en fait.
Les points d'entrée sont multiples, ce qui rend, les données sensibles de l'entreprise beaucoup plus vulnérables. Aujourd'hui, la grande tendance sur l'année 2015, ça a été ce qu'on appelle le ransomware, c'est-à-dire le chantage, la demande de rançon. Donc typiquement des cyber hackers, on va les appeler comme ça, des pirates informatiques vont cibler.
C'est plus des pirates que des hackers.
C'est plus des pirates que des hackers. Voilà, nous on fait aussi le distinguo dans le livre parce que les hackers ont une histoire.
En fait, le hacker c'est le gentil pirate en théorie.
On peut dire ça, voilà. Et le pirate informatique lui est plus il est plus là pour l'argent ou pour des données de santé ou pour des données qu'il va pouvoir revendre en fait ailleurs. Donc pour revenir sur l'entreprise et le cas du chantage, des groupes de pirates vont cibler une assurance, une banque, une entreprise qui a des données sensibles, des données clients très sensibles, elle va réussir à rentrer dans le système, souvent par l'envoi d'un mail un peu ce qu'on appelle un malware, c'est-à-dire création d'un logiciel malveillant sur lequel une personne un peu naïve va cliquer sur un mauvais lien.
Qui est dans la société, bien sûr,
et qui va provoquer toute une série de réactions en chaîne. La porte s'ouvre, exactement, et là on a accès, les pirates ont accès aux données, ils vont les crypter, ils vont les chiffrer. Ils vont en fait après prévenir l'entreprise et lui demander une rançon, le plus souvent en Bitcoin, cette fameuse monnaie alternative, monnaie
pour pas laisser de traces.
Numérique, pour pas laisser de traces et pour que les enquêteurs derrière qui sont habitués à une approche un peu folle Follow the Money soit un peu perdu. C'est un des problèmes, c'est très difficile de remonter la piste des pirates informatiques. Voilà, ça, explosion du chantage à la donnée. Et derrière, les types renvoient la clé USB de déchiffrement. C'est-à-dire qu'il y a un vrai business model de la fraude qui est assez... ils sont quelque part, ils sont réglo dans leur manière de frauder, quoi. Et,
bah ouais,
et les entreprises préfèrent payer et créer des budgets fraude.
C'est incroyable.
C'est assez incroyable. Ouais. Et des ministères aussi.
Il y a même des particuliers qui sont victimes de ce genre de chantage.
Bien sûr. Parce que, les entreprises ne sont pas les seules.
L'utilisateur peut très bien télécharger ce ransomware sans le vouloir et se retrouver avec son PC bloqué, toutes les photos
Absolument.
De famille, etc. Et on demande quelques centaines d'euros pour débloquer l'ordinateur.
Voilà, ça touche aussi les particuliers. Mais les entreprises, sur ce type de chantage-là, ça peut être sur des sommes assez colossales.
Oui, bien sûr.
Parce qu'on est sur des données très sensibles.
Elles payent la plupart du temps.
La plupart du temps, elles payent. Elles préfèrent payer et récupérer vite leurs données clients que laisser traîner ou voilà. Après, le marché de la cyberassurance est en pleine explosion, c'est ça aussi qui est intéressant. Là, on est sur les assureurs, pour l'instant c'est essentiellement aux États-Unis, mais les assureurs par exemple en France commencent à s'y mettre. Il y a une loi qui va arriver en 2018 qui va obliger toutes les entreprises à révéler publiquement, comme aux États-Unis, c'est le cas aux États-Unis aujourd'hui. En cas d'attaque, de vol de données, il faudra le dire publiquement, ce qui n'est pas le cas encore en France. Mais voilà, marché émergent de la cyberassurance qui va aussi, qui montre que les entreprises commencent à prendre la mesure du problème.
Alors, de l'entreprise, vous le mentionniez, notamment avec cette tendance du bring your own device. On utilise de plus en plus nos propres objets. On les apporte au bureau, on les rapporte à la maison. De l'entreprise à nos maisons, il n'y a qu'un pas. Il y a une autre citation que j'ai trouvée assez drôle dans votre ouvrage, c'est Eugène Kaspersky qui parle concernant l'Internet des objets comme l'Internet des menaces. Est-ce que c'est un fantasme ou pas, ces objets connectés qui seraient des espèces de petits mouchards propres à l'attaque?
Non, c'est pas un fantasme. Alors après, Eugène Kaspersky, il est vendeur de solutions informatiques.
Oui, bien
donc
sûr.
Faut aussi
relativiser.
Voilà, souvent on dit il y a un peu un marché de la peur. Alors sans tomber dans cette paranoïa totale non plus, il a pas complètement tort. On a appelé le chapitre sur les objets connectés mouchards à domicile. En fait, on est en train d'adopter plein de petites machines qui sont censées nous rendre des services très pratiques, mais qui en fait sont potentiellement transformables en qui sont en fait des ordinateurs, tout simplement. Un thermostat smart, c'est un ordinateur. Un compteur Linky qui va être installé dans tous les foyers, c'est un ordinateur à sa manière, et donc c'est potentiellement hackable. Donc on a eu le cas d'un babyphone aux États-Unis qui avait été hacké, la caméra se mettait à insulter le bébé. On raconte quelques anecdotes qui sont assez effrayantes. Les caméras, les gens mettent des caméras chez eux ou dans les caméras aussi publiques de surveillance avec des flux de données qui sont non chiffrés, qui ont été recensés sur des sites. Il y a des moteurs de recherche spécialisés aussi qui vous montrent un peu tous les objets connectés dont les flux sont en libre accès. Donc on met sur le marché aujourd'hui des objets qui ne sont pas forcément des passoires, mais qui présentent des failles de sécurité. 7 objets connectés sur 10 parmi les plus vendus selon HP, Hewlett-Packard, je crois que c'est une étude de fin 2014, début 2015, présentent des failles.
Et puis il y a le cloud derrière tout ça, c'est-à-dire que toutes ces données remontent sur des serveurs,
exactement,
donc un peu partout, et qui peuvent être eux-mêmes hacké ou piraté.
Le cloud, on est tout à fait dans le fantasme de la magie et de la dématérialisation. Le cloud, c'est des serveurs, c'est physique.
Bien sûr.
Et c'est tout à fait hackable.
On l'a vu avec Apple qui s'est fait pirater.
Voilà, il y avait
certaines
affaires des célébrités aussi.
Voilà, des célébrités,
le Celeb Gate, la fameuse affaire où des actrices comme Jennifer Lawrence ou Rihanna s'étaient fait hacker des photos intimes et un peu compromettantes qui, si elles avaient été
très intimes, on va dire.
Voilà, très croquignoles, on va dire.
Voilà, c'est ça. On va pas rentrer dans les détails.
Et si
bizarre.
Elles avaient été sur papier, elles auraient été enfermées dans un coffre-fort.
Ah, complètement.
Et
oui.
Là, elles sont mises. On confie notre destin numérique à Apple en se disant, voilà, ils ont il y a un côté un peu confiance aveugle. Et là, nous, on appelle un petit peu à plus de méfiance. Et je pense qu'on peut imaginer que d'ici 5-10 ans, des assureurs, des banques refuseront de rembourser des personnes qui auront eu un mot de passe du type 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou qui n'auront pas pris les précautions minimales nécessaires pour bien se protéger.
Oui.
Ça paraît assez crédible. On ne pourra plus s'occuper des cas particuliers de gens qui sont trop trop négligents avec leur cybersécurité.
Est-ce que plus simplement, ce ne serait pas d'abord le smartphone qui serait l'appareil à protéger de
ces
attaques ?
Si, bien sûr. On voit que la fréquence des attaques sur les smartphones, c'est à peu près plus 400% dans le monde par trimestre. En gros, c'est un ordre d'idée. Mais ça montre que les pirates suivent les flux de données sensibles et d'argent. tout simplement. Donc là, comme le smartphone s'est totalement démocratisé, c'est aujourd'hui le smartphone qui est au cœur des attaques. Il faut absolument protéger son smartphone. Je crois qu'il y a que moins d'une personne sur deux qui met un code PIN de sécurisation pour simplement ouvrir son téléphone. Mmh. Moins d'une personne sur deux, c'est pas beaucoup. C'est juste la base. Hein. C'est la première porte qu'on peut refermer facilement. Ajouter à ça le fait que des hackers sont capables, par exemple, d'actionner un micro. Sans que ça se voit, sans que ça s'affiche sur l'appareil. Donc typiquement, vous êtes en pleine réunion, vous êtes en train de négocier une fusion-acquisition, si vous êtes un grand patron, et là, tout d'un coup, la personne est capable d'enregistrer ce qui se dit, et de potentiellement revendre ces données-là sur Internet. Hein. C'est ce qui s'est passé. Par exemple, des traders ont eu accès à des données, comme ça, on demandait à des pirates d'accéder à des comptes, à des clouds, à des services de cloud de sociétés, et ont eu des informations en amont sur des fusions acquisitions en cours, ce qui leur a permis évidemment de faire des paris sur les et du délit d'initié en fait sur des négociations à venir. Donc on est sur un marché qui est très très compliqué, beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu.
Un autre secteur qui pourrait être touché, c'est notamment toute la catégorie d'objets connectés de santé. Vous évoquez notamment le pacemaker connecté. Je ne sais plus, c'est dans quel film.
C'est dans Homeland, dans la série Homeland, où ils ont repris le cas du Dick Cheney. Parce qu'en fait, l'ancien vice-président américain Dick Cheney est porteur d'un pacemaker et avait fait le choix de désactiver la fonction activation du pacemaker à distance pour sa propre sécurité. Et dans Homeland, ils ont repris cette information-là dans le rôle du président.
C'est-à-dire que si on peut l'activer, on peut le désactiver aussi.
Ben voilà, et des hackers l'ont démontré à Berlin dans une grande réunion.
Et désactiver un pacemaker, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa.
C'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Et là, on est sur de l'attaque plus, on va dire, terroriste, ciblée, sur des personnalités influentes, peut-être des hauts dirigeants politiques. Ça fait assez peur, c'est assez effrayant. Mais le médical, ça concerne aussi tous les services d'imagerie médicale, toute la numérisation des services médicaux dans les hôpitaux. Il y a eu un célèbre virus qui s'appelait Conficker qui a touché 9 millions d'ordinateurs en France et dans le monde, dans des hôpitaux. Quasiment tous les grands CHU de France ont été touchés. Et donc là, ça peut amener à tuer des personnes potentiellement. Même si aujourd'hui, il n'y a pas encore eu une attaque cyber létale qui tuait des gens directement. On a eu des gens qui se sont, par exemple, suicidés suite à la révélation de leur présence sur un site de rencontre, qui s'était fait hacker,
Ashley Madison,
à l'été 2015. Mais on n'a pas encore eu, on va dire, d'actes cyberterroristes qui fait des morts directement.
Eh oui. Parfait, merci beaucoup. Passionnant, hein, tout ça.
Merci beaucoup, Blaise Mao. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous invite à découvrir et lire l'ouvrage Cyberfragile, paru aux éditions Talendier. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique, toujours sur BFM Business. Ce sera notre French Tech Tour et World Tour dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, Jean-Sébastien Zanqui de la rédaction de Zéronet.com me rejoindra tout à l'heure. Avec lui, on va s'intéresser aux gros titres d'actualité que vous avez pu lire cette semaine sur Zéronet. Et puis le crash test d'Antoine Cyr et le décryptage aussi de Léla Migraoua. Mais dans l'immédiat, notre French Tech Tour avec vous, Aurore Géraud. Et notre invité, on va parler de la French Tech, de la French Touch. Quelle perception a la French Touch justement à l'étranger ?
Oui, tout à fait. Nous sommes aujourd'hui avec Gaël Duval, qui est un serial entrepreneur, qui est le fondateur de la French Touch Conference. Gaël, bonjour.
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 Alors, la semaine dernière, François Hollande a profité de sa venue à New York pour la signature de l'accord COP21 pour rencontrer des startups françaises à l'étranger. Ça fait quoi de recevoir le président ? Est-ce que c'est un message fort ?
On est très content d'avoir réussi à convaincre le président de venir dans le cadre du lancement de la troisième édition de la French Touch Conference qui aura lieu à New York les 21 et 22 juin. Mmh. Et c'est effectivement un message fort parce que c'est la première fois qu'il y a une rencontre de ce genre avec le président de la République. Et on voulait faire passer deux messages qui ont été très bien entendus. Le premier, c'est que quand on est entrepreneur et qu'on part à l'étranger, c'est pas parce qu'on part pour quitter la fiscalité, mais pour développer sa société et pour accélérer sa croissance. Et le deuxième, c'est que quelle que soit la manière dont on développe une entreprise aujourd'hui, à partir du moment où elle est avec un peu de français dedans, ça génère de l'emploi et ça génère de l'emploi en France, puisqu'on a pu présenter des sociétés qui, malgré le fait qu'elles soient en croissance très forte vers l'étranger, elles génèrent énormément d'emplois en France. Parce que souvent, la recherche-développement est basée en France et le commerce est basé à l'étranger. Faut voir que c'est le sens naturel de développement d'une société où aujourd'hui la France, de par sa taille naturelle, ne peut pas peser de façon très importante dans les business des sociétés qui se croient à l'international. Et on voulait essayer de casser aussi cette image des Français start-upers qui partent à l'étranger pour quitter un univers peu adapté à leur développement, alors qu'en réalité, c'est surtout pour s'adapter au monde d'aujourd'hui dont la Terre est plate et qui va plus vite dans sa croissance.
Du coup, en mai 2005, il y a eu le mouvement Reviens Léon. Comment vous vous placez par rapport à ça? Est-ce que ça va pas en contradiction?
Non, pas du tout, parce que l'opération de Reviens Léon, que la French Touch Conference soutient et auquel on apporte notre voix, c'est une volonté d'essayer d'apporter des talents en France, qui soient des talents de Français qui ont réussi à l'étranger et qui ont envie de revenir, parce que pour des raisons familiales ou des raisons personnelles, mais aussi pour attirer des talents étrangers. Il faut voir que aux États-Unis, par exemple, la moitié des fortunes 500 américaines sont des enfants issus de l'immigration et qui ont donc été accueillis à un moment donné aux États-Unis pour développer des projets, développer des business. Le Reviens Léon, ça s'adresse à la fois aux Français qui sont en train de se développer, qui sont développés à l'étranger, qui ont envie de revenir, mais aussi à des talents étrangers qui ont envie de s'installer pour développer des projets depuis la France.
On a vu que ça a eu des résultats un petit peu mitigés, avec seuls 8 Léons qui sont revenus, même si on n'en attendait que 5, apparemment. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, on a toujours tendance à regarder le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. La réalité, c'est que c'est une première initiative qui a été lancée par Frédéric Mazella et une multitude d'entreprises qui l'ont suivi. Et le fait de pouvoir déjà avoir 8 personnes plus que 5 qui étaient attendues, c'est réellement un succès. Ensuite, il faut quand même comprendre que c'est un long process. C'est la première fois que ce genre d'opération est lancée. C'est la première fois qu'on entend des entrepreneurs français dire qu'ils ont besoin de talents de l'étranger et besoin de seniors qui ont réussi à accompagner des sociétés à très forte croissance à l'étranger pour leur demander de revenir nous aider. La réalité, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir en France des sociétés à très forte croissance qui ont besoin de talents. Et c'est donc un premier message, donc donnons du temps au temps et saluons plutôt le fait qu'on ait déjà 8 personnes qui ont envie d'accompagner la croissance des grandes boîtes françaises, plutôt de considérer que c'est mitigé. C'est effectivement toujours mitigé. Maintenant, c'est franchement formidable qu'on ait cet élan et qu'on ait cet enthousiasme qui est en train de se créer.
Et du coup, vous lancez donc la French Touch Conference, la troisième saison. On a beaucoup entendu parler du label French Tech. C'est quoi la French Touch? Ça existe?
La French Touch, c'est une manière de développer et créer l'entrepreneuriat différemment. On s'appelle French Touch Conference parce qu'on porte non pas que la tech, mais on porte aussi l'industrie, on veut porter la culture, on veut porter le savoir-faire et on veut porter l'héritage. On a en France depuis maintenant plus de 300-400 ans une capacité de développer des sociétés à niveau mondial. Quand on voit les leaders mondiaux qu'on a réussi à créer ou qu'on réussit à créer nos aînés, c'est exceptionnel. Et donc on veut être capable de promouvoir ça à l'international, donc de mettre en avant nos talents, non pas pour dire qu'on est les meilleurs du monde, bien qu'on peut l'être parfois, mais juste pour montrer qu'on a des talents, créer le lien avec d'autres écosystèmes et donc de favoriser le rayonnement de cette French Touch qui, comme dans la musique d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on a voulu appeler ça la French Touch Conference, a sa propre partition et sa propre manière de faire. Je dis souvent, parce que c'est une réalité, le terme disruption a été inventé par un Français et la notion qu'on veut apporter, c'est cette capacité qu'ont historiquement les Français et culturellement des Français de penser en dehors de la boîte, de penser souvent différemment. Ça ne veut pas dire qu'on pense mieux, mais ça veut juste qu'on a une autre manière d'appréhender les problèmes, et ça, c'est issu de notre culture et c'est issu de notre héritage.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Gaël.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Voilà, serial entrepreneur et fondateur donc de la French Touch Conference. Et Aurore, après donc le French Tech Tour, place à notre World Tour, et on va faire un focus sur l'Algérie aujourd'hui.
Oui, nous sommes en compagnie d'Aline Maillard, qui est responsable édito de Wanda, et fondatrice de l'incubateur de Blue House. Aline, bonjour.
Bonjour Aurore.
Alors, il y a 2 ans déjà, on vous avait reçu pour parler, pour faire un focus sur l'Algérie. On voulait faire un petit point d'où on en était. Je sais que la dernière fois, notamment au niveau de tout ce qui était utilisation d'Internet par les Algériens, on s'arrêtait principalement, et c'était assez rigolo, sur les recherches sur le foot ou les petites annonces. Est-ce que c'est toujours le cas?
Alors, je pense que le foot, les petites annonces, est une autre thématique qui est un peu similaire dans tous les pays du monde, qui n'est pas forcément très légale. on trace les sites les plus vus. Mmh. En revanche, il y a eu quand même pas mal de changements, notamment depuis deux ans, il y a eu l'arrivée de la 3G.
Ah.
Qui a fait qu'il y a eu un rattrapage très, très rapide d'Internet dans le pays. Aujourd'hui, on a 18% des Algériens qui sont connectés. Alors, ça semble pas beaucoup, mais c'est quand même une multiplication par 4 depuis 2014. Donc, okay. C'est assez sidérant comme croissance. Et puis, il y a aussi eu l'arrivée de gros groupes comme Rocket Internet qui est arrivé en Algérie. Et puis, il y a d'autres sites Internet de e-commerce qui existaient déjà en 2012, mais c'était des petits blogs. Enfin, ça donnait vraiment pas envie d'acheter quoi que ce soit. Et donc là, on voit vraiment que le e-commerce commence en Algérie. Il n'y a toujours pas de paiement en ligne. En dehors d'Alger, il faut attendre une grosse semaine pour être livré. Mm-hmm. Mais voilà, on voit qu'il y a, un développement, en tout cas vraiment, de l'économie en ligne.
Et du coup, c'est le problème du paiement en ligne, il pose une grosse problématique, je suppose, pour le développement d'entreprises.
Enfin, en fait, pas tellement. Pas tellement parce que tout d'abord, on voit qu'on est dans un pays où les gens sont très peu bancarisés, comme c'est le cas dans en règle générale, en Afrique et dans les pays arabes. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les autres pays qui ont des plateformes qui permettent le paiement en ligne et où les populations sont peu bancarisées, en fait, ils l'utilisent assez peu. Mmh. Et ils vont plutôt choisir des options comme le cash on delivery, c'est-à-dire le paiement à la livraison en liquide. Voilà. Et donc, en fait, c'est ce que disaient les e-commerçants en Algérie, c'est que finalement, pour eux, ça pose pas de problème parce que de toute façon, s'ils avaient eu le paiement, les gens ne l'auraient pas pris. Et là, ça permet aussi de créer une confiance puisque les gens vont voir les objets avant de les acheter. Alors, c'est pas la meilleure technique, c'est sûr. Hein, c'est beaucoup plus facile quand on reçoit l'argent en avance. Ça évite que les gens annulent leurs commandes, etc. Mais c'est pas handicapant pour l'instant.
Et du coup, on avait parlé il y a deux ans du fait qu'on démarrait la transition numérique en Algérie. Est-ce que c'est poussé, c'est porté par les entrepreneurs ?
Alors oui, oui et non. C'est un pays où l'entrepreneuriat n'a jamais vraiment été mis en avant. Mm-hmm. Donc là, on en est vraiment au tout début de cette culture entrepreneuriale. Mm-hmm. Les startups qui sont créées, elles sont soit créées très récemment, soit elles sont créées, mais bon, elles ne décollent pas vraiment. En revanche, comme j'ai dit récemment, on voit qu'il y a eu un changement. Il y a des Algériens qui commencent à créer des sites, beaucoup dans l'éducation. Il y en a aussi plusieurs dans la santé. Et puis, il commence à y avoir un site qui veut faire du covoiturage, un site qui veut faire du CRM, un site qui veut faire une plateforme immobilière. Donc, on voit que les choses commencent à changer. Mais il n'y a pas les moyens, je veux dire, à part l'exemple de Rocket Internet dont j'ai parlé avant, il n'y a pas beaucoup de moyens et il y a assez peu finalement d'expérience. Donc les gens qui vont lancer des sites Internet, c'est des personnes qui n'ont jamais bossé dans le web avant, en règle générale qui sont assez jeunes, qui n'ont jamais monté d'entreprise. Donc il y a une envie de faire quelque chose, mais pour l'instant, on en est vraiment aux prémices.
Et au niveau structure, est-ce que on peut voir des incubateurs, des espaces de coworking, ce genre de choses apparaître ?
Alors depuis longtemps déjà, le gouvernement algérien a créé des incubateurs et des subventions pour permettre aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat sans que ça soit de l'entrepreneuriat innovant ou technologique. Le problème, c'est que surtout les incubateurs n'ont pas très bonne réputation parce que justement, ils ne sont pas très innovants et ils ont pensé de façon assez centrale, de façon assez finalement gouvernementale dans tout ce qu'il peut y avoir de mal dans cet objectif. Et donc finalement, voilà, ça n'a jamais vraiment beaucoup aidé. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu trois espaces de coworking qui ont ouvert ces trois derniers mois. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que voilà, tout se met en place maintenant, dont un qui est vraiment pensé pour être un hub start-up créé par des entrepreneurs, pour les entrepreneurs. Il y a déjà eu plein d'événements qui ont été organisés. À côté de ça, on voit aussi que les opérateurs téléphoniques commencent vraiment à se mouiller. Il y en a un des opérateurs téléphoniques, Ouredo, qui avait déjà créé il y a deux trois ans, je pense, un concours de start-up. Et on commence à voir vraiment les fruits de ce programme et eux qu'on continue à s'investir de plus en plus dedans. Puis à côté, on a un autre opérateur, Jay-Z, qui lui commence à soutenir, carrément fait des partenariats avec des start-up pour promouvoir leurs services.
Merci beaucoup, Aline.
Merci, je vous en prie.
Merci. Voilà, c'était notre World Tour avec l'Algérie. Aurore, on revient dans un instant pour la suite de cet atelier. Ce sera avec Jean-Sébastien Zanqui, de la rédaction de Zeronet.com. Et puis, pour terminer, ce sera le crash test d'Antoine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, le crash test d'Antoine Cyr dans quelques instants. Il sera question d'informatique, ce sera le point de départ du crash test d'Antoine, mais auparavant, direction la rédaction de Zeronet.com, comme chaque samedi, avec Jean-Sébastien Zanqui cette semaine. Salut Jean-Sébastien.
Bonjour François.
Ravi de te retrouver dans l'atelier numérique sur BFM Business. Jean-Sébastien qui est journaliste donc à Zeronet.com. Avec lui, on va jeter un œil sur quelques-uns des titres d'actualité qu'on a pu lire cette semaine sur Zeronet, premier site d'actualité high-tech en France. Et on va commencer par Apple, avec des chiffres historiques pour Apple, mais pas forcément dans le bon sens.
Non, pas forcément dans le bon sens. En effet, Apple a annoncé cette semaine d'avoir en fait vu baisser son chiffre d'affaires et ses revenus pour la première fois depuis 13 ans. Donc c'est vraiment un événement et ça montre à quel point la stratégie du tout iPhone peut être limitée et dangereuse effectivement pour Apple, puisque c'est à cause des ventes, des baisses de ventes d'iPhone que les chiffres d'affaires a baissé.
D'accord, mais pourquoi les ventes d'iPhone ont baissé? Est-ce qu'Apple arrive à analyser cette chute?
Ben en fait, on se rend compte déjà que premièrement, le contexte de marché international est difficile, on va dire, pour presque tous les constructeurs. C'est-à-dire, et outre la crise, le fait que les gens deviennent de plus en plus équipés en smartphone. Donc effectivement, ils s'en vendent moins.
C'est un marché mature aujourd'hui.
On devient dans un marché de renouvellement et non plus un marché d'équipement. Donc c'est normal qu'ils s'en vendent un petit peu moins. Là, cette année, on va vraiment connaître un pic et ça risque de baisser à partir de l'année prochaine. L'autre chose, c'est également le fait que pour l'instant, on est sur un iPhone S, comme on appelle, donc c'est voilà,
avec le 6S qui est sorti donc à la rentrée dernière.
Donc en général, c'est des modèles qui se vendent parfois un peu moins bien ou qui ont un intérêt un peu plus limité pour les consommateurs.
Qui ne sont pas une rupture en fait par rapport au modèle précédent.
C'est ça, le design est identique à la série à la série précédente. Donc il y a un peu moins d'attrait pour les consommateurs. Et Apple s'est aussi rendu compte que les consommateurs le gardaient de plus en plus souvent, c'est-à-dire que de plus en plus longtemps, pardon, c'est-à-dire que un iPhone se garde maintenant je crois 24 mois au lieu de 22 mois auparavant. Donc tout ça fait que effectivement les ventes baissent et donc Apple connaît des difficultés. Il faut encore de l'argent, mais beaucoup moins que l'année dernière, par exemple.
Après, bon, il y a aussi d'autres, on va dire, critères, on va dire plus économiques. Un dollar fort, donc qui est pas forcément bon pour Apple.
Tout à fait.
L'économie en Chine qui est pas exceptionnelle non plus. Apple misait énormément sur la Chine pour vendre énormément de téléphones. Bah, finalement, les Chinois ne s'équipent pas autant que prévu.
Voilà, ça a très bien marché pendant plusieurs années pour Apple, pendant 3 ans, depuis qu'ils y sont. Et puis là, effectivement, les ventes ont baissé d'une vingtaine de pourcents en Chine cette année, et il y a effectivement les devises qui les pénalisent, qui sont compliquées, qui les pénalisent.
Alors donc l'iPhone ne se vend pas comme avant, enfin se vend moins bien qu'avant, l'iPad aussi, les Mac aussi.
Tout à fait.
Tout est dans le rouge, ou il y a quand même des voyants positifs?
Alors il y a quand même une bonne nouvelle pour Apple, c'est pas la moindre, parce que les services en fait de la société marchent très bien, c'est-à-dire tout ce qui est iTunes, iCloud et Apple Music surtout. C'est-à-dire que tout cet ensemble de services a permis à Apple de faire un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars, ce qui est plus que les ventes de Mac par exemple. Donc c'est pas rien, effectivement.
Ça commence à devenir conséquent.
Voilà, les ventes de Mac ne sont plus majoritaires depuis que l'iPhone existe, mais quand même, quand on voit les services passer devant, c'est assez emblématique. Un chiffre par exemple, Apple Music a désormais 13 millions d'abonnés payants. En février, Apple annonçait qu'ils en avaient que 11. C'est-à-dire qu'en 2 mois, il y a eu 2 millions d'abonnés supplémentaires.
D'accord.
Donc on voit qu'il y a une tendance vraiment là-dessus sur ce service qui est importante. Et donc Tim Cook, dans ce sens, a annoncé le renforcement de data center et une vraie stratégie, l'embauche d'ingénieurs, etc. Sur ce point-là.
L'économie par abonnement, en fait.
Tout à fait.
Voilà, et ça permet de développer tout ça.
Ça permet d'ailleurs à Apple d'avoir un chiffre d'affaires beaucoup moins saisonnier, par exemple, que avec les ventes de matériel.
On n'a pas parlé d'Apple Watch, Jean-Sébastien. Est-ce que Apple en a parlé?
Alors pas beaucoup. On n'a toujours pas de chiffre de vente.
Hein. Ouais, c'est vrai. Apple ne communique pas sur les chiffres de vente de l'Apple Watch.
Il y a bien un produit sur lequel Apple ne communique pas, c'est là-dessus. Donc en général, on peut dire que c'est pas forcément le meilleur signe. Hein. Mm-hmm. Après, on estime quand même que l'Apple Watch est la montre connectée la plus vendue au monde, mais on ne sait pas exactement à combien d'exemplaires. Et Apple, manifestement, n'estime que c'est pas assez pour impressionner, et donc c'est pas communiqué par la marque.
Voilà. En fait, Apple communique en fait met les ventes de l'Apple Watch dans des chiffres qui s'appellent autres.
C'est ça.
Voilà, où tout est noyé. En fait, il y a plein d'autres choses, les ventes d'iPod, etc. Donc, il est très difficile.
C'est difficile. On estime peut-être autour de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais on n'en sait pas plus, en tout cas en nombre de montres vendues.
Alors, la prochaine étape pour Apple, ça va être septembre prochain, c'est l'iPhone 7. Mais, malheureusement, les rumeurs qui commencent à circuler concernant l'iPhone 7 ne sont pas très rassurantes, Jean-Sébastien.
Non, sur l'iPhone 7, on attend, en fait, il y a des plans qui ont été, des schémas du téléphone qui ont été publiés cette semaine dans la presse japonaise. Et on voit qu'en fait, le design est absolument identique à l'iPhone 6S actuel. Alors, bien sûr, c'est pas une confirmation, ça peut être considéré comme une rumeur, mais quand même, il y a beaucoup de faisceaux d'informations qui font que cet iPhone, a priori, ne serait pas vraiment une rupture technologique par rapport au modèle actuel, et qu'en fait Apple réserverait ses grandes nouveautés pour le modèle de l'année prochaine. L'année prochaine, normalement, LG et Samsung vont fournir les dalles AMOLED de l'iPhone. L'iPhone est un des rares modèles haut de gamme qui n'a pas de dalles AMOLED, cette nouvelle technologie d'écran.
Qui est présente sur la plupart des smartphones coréens.
Oui, voilà, Samsung, LG, sur des smartphones chinois. Et donc Samsung et LG sont d'ailleurs les deux grands spécialistes de cette technologie. Et c'est eux qui doivent le fournir, mais leurs usines ne sont pas assez grandes pour fournir Apple. Donc le temps qu'ils engrandissent leurs usines et leur capacité de production,
ça sera pas prêt pour septembre cette année.
Voilà, ça sera l'année prochaine. Donc on dit que cette année ce sera certainement un iPhone 7.
De transition, on va dire. Voilà, un peu comme un 6S.
C'est ça, un 6S. On ne sait pas, prime, plus, on appelez-le comme vous voulez. Mais du coup, Apple pourrait peut-être sortir l'iPhone 8 dès l'année prochaine. Okay. Voilà, elle n'aurait pas d'iPhone 7S, mais un iPhone 8 avec cet écran AMOLED, un nouveau design avec un dos en verre, on en parle aussi beaucoup.
Ouais, tout ça va pas faciliter, on va dire, la reprise du chiffre d'affaires l'explosion des ventes en cette fin d'année.
Les ventes risquent d'être encore très, très plates pour Apple cette année.
Allez, on termine avec Apple concernant de nouvelles rumeurs au sujet de l'Apple Watch.
Oui, alors l'Apple Watch, justement, on estime, enfin, en tout cas, certains pensent qu'elle pourrait embarquer l'Apple Watch 2 qui serait a priori présenté cette année, pourrait embarquer une connexion cellulaire. Alors, on ne sait pas encore si c'est du Edge, de la 2G, de la 3G, mais en tout cas, c'est une connexion qui lui permettrait
d'être
fonctionner
en quelque sorte
sans smartphone.
Et voilà.
Et effectivement, Apple a déjà amorcé un pas dans ce sens cette année, là, cette semaine même, puisque il demande aux développeurs de maintenant de ne faire que des applications qui soient autonomes et qui ne fonctionnent pas grâce à l'iPhone, c'est-à-dire que l'application fonctionne sur la montre et non pas sur le téléphone. Donc on peut quand même lancer une application si on va faire du running sans avoir son téléphone dans la poche.
Et on murmure qu'une nouvelle Apple Watch, donc de deuxième génération, pourrait sortir à la rentrée prochaine aussi. Hein.
C'est ça, tout à fait.
Allez, on arrête là avec Apple. On enchaîne avec Google maintenant, qui pourrait insérer un bloqueur de pub dans Chrome.
Oui, alors ça serait une grande première et surtout très surprenant pour Google, parce que je vous rappelle que Google, c'est quand même la première régie
source de publicité.
Sur le net, plus de 90% de son chiffre d'affaires, c'est de la publicité. Mais Google se rend compte quand même qu'il y a une levée de front des internautes sur ces publicités qui sont parfois très invasives,
intrusives.
On ouvre une page, on a ces espèces de pop-up incroyables,
des vidéos qui se lancent, son, on comprend rien,
des croix qu'on ne trouve pas pour faire cette pub. Enfin voilà, ça devient parfois vivable.
Vous avez remarqué, en plus, on croit qu'on va cliquer sur une croix et puis paf, ça ouvre une autre page.
C'est
c'est le jeu on est piégé.
Ah oui, ça des fois, ça peut être terrible. Ouais. Donc, les éditeurs de presse européens se sont rendus compte effectivement que les lecteurs n'aimaient pas ça. Google se rend compte aussi que ça pénalise ses propres publicités qui, elles, sont globalement respectueuses genre de choses.
Ouais.
Donc, ils sont en train de réfléchir, les éditeurs et Google, à intégrer une sorte d'adblocker de publicité seulement intrusive. Donc ça va pas être les publicités classiques, les bannières, etc. Ça permettrait de concurrencer aussi un petit peu AdBlock Plus, qui est quand même le grand spécialiste du genre. Il y a plus de 200 millions de personnes qui utilisent AdBlock Plus dans le monde, qui lui bloque toutes les publicités. Donc ça fait vraiment pas l'affaire des annonceurs ni de Google. Et en plus, AdBlock Plus fait payer les annonceurs pour laisser passer leur pub s'ils le désirent. Donc c'est un modèle économique un peu bizarre.
C'est pas très sain.
Pas très sain. Donc l'initiative de Google, voilà, serait d'intégrer un Adblock Plus soft, on va dire, pour ces publicités qui sont vraiment invasives.
Voilà, et on verrait toujours les liens sponsorisés sur les moteurs de, le moteur de recherche de Google.
Évidemment.
Qui est quand même, on va dire, la porte d'entrée du modèle économique de Google, pardon. On enchaîne avec le jeu vidéo et Nintendo qui a fait une annonce cette semaine concernant sa nouvelle console de jeu, Jean-Sébastien.
Oui, Nintendo, on attend beaucoup Nintendo cette année, vous savez, puisque les rumeurs disent que sa console nom de code NX, on n'en sait pas beaucoup plus, devait sortir certainement cette année. En fait, Nintendo a repoussé ça à l'année prochaine, donc mars 2017, la date est officielle, c'est le fondateur même de le concepteur de la NES. D'accord. Qui l'a annoncé. Mm-hmm. Donc mars 2017, ce qui veut dire que le modèle sera encore retardé, et aussi certains grands jeux qu'on attendait pour la Wii U et qui auraient pu permettre de relancer la Wii U, effectivement, comme le Zelda que tout le monde attend, c'est le grand classique de Nintendo.
La Wii U qui vit des moments difficiles, on va dire, parmi toutes les consoles next-gen, c'est celle qui se vend le moins bien, c'est pas un secret.
C'est la première à être sortie, elle a un petit retard technologique sur celle de Sony.
Et puis bon, son concept avec de gros écrans, grosses manettes, etc., n'a pas fait l'unanimité, on va dire.
Ça avait bien marché avec la Wii U, c'est plus compliqué ce genre de système de jeu. Donc cette console serait prévue pour l'année prochaine.
C'est pas grand chose en revanche. Hein.
Et voilà. Et alors en revanche, Nintendo n'a toujours pas précisé qu'est-ce que ce serait comme console, c'est-à-dire une console de salon, une console portable. Mais ils promettent quand même une surprise. Enfin voilà, on attend de voir ce que ça peut être. Certains imaginent un système entre les deux. Pourquoi pas hybride de salon qu'on pourrait embarquer avec soi. Donc il y a beaucoup encore d'inconnus sur cette console, si ce n'est donc la date maintenant, puisque dans un peu moins d'un an, mars 2017, cette console devrait de sortir. Et en même temps, a priori, donc le Zelda que tout le monde attend sur Wii U et sur NX.
Voilà, Zelda qui est, on va dire, le jeu emblématique avec les Mario, etc.
Ça peut tirer les ventes vers le haut en général.
Effectivement, voilà, Nintendo qui en a bien besoin. Oui. Merci beaucoup Jean-Sébastien.
Merci François.
Jean-Sébastien Zanqui, donc journaliste à zeronet.com. Et je vous rappelle que chaque samedi dans l'atelier numérique, on fait un point sur l'actualité high-tech, vu par le premier site d'actualité en France, zeronet. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, on a encore quelques minutes à passer ensemble avec Lila Megraoua et Antoine Cyr pour le crash test. A tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Bientôt la fin. On va retrouver le crash test d'Antoine dans quelques instants. Mais auparavant, c'est notre décryptage avec Lila Megraoua. Et on va parler de transformation digitale dans l'industrie. Lila, d'ici 2020, les entreprises du secteur industriel prévoient d'investir plus de 900 milliards de dollars par an dans leur transformation digitale.
Oui, François, un chiffre impressionnant qui provient de l'étude mondiale menée par le cabinet PwC sur l'industrie 4.0. Et pour cause, ces investissements devraient permettre de générer en moyenne 2,9% de revenus supplémentaires par an et entraîner une réduction des coûts de 3,6% par an. En vrac, ces investissements seront en grande partie consacrés à la mise en place de capteurs ou objets connectés, de systèmes de production ou outils de réalité augmentée ou de data analytics. Alors, un autre chiffre étonnant de cette étude PwC, plus de la moitié des entreprises, 55%, pensent rentabiliser cet investissement en 2 ans seulement. Alors, cet engouement, il joue également à l'échelle des États. Smart Industrie aux Pays-Bas, Nouvelle France Industrielle en France, Industrie 4.0 en Allemagne. De nombreux États ont lancé des initiatives pour accélérer la modernisation et la numérisation de leur industrie. Alors, l'industrie 4.0, c'est quoi ? Pour faire court, industrie 4.0, ça tire son nom de l'avènement de la quatrième révolution industrielle, celle de l'introduction de l'Internet des objets dans la production. C'est ainsi que l'Allemagne a mis sa grande messe de l'industrie, la Hannover Messe, née en Allemagne année 0, soit en 47, aux couleurs de l'industrie du futur. Et en fait, une affaire d'État. C'est non moins que la chancelière Angela Merkel qui a inauguré l'événement cette semaine en grande pompe aux côtés du président américain Barack Obama. Alors, un Obama entouré de sa garde industrielle, General Electric, Honeywell, Eaton, Microsoft, IBM et AT&T. NT. Après la Chine en 2012, puis la Russie et enfin l'Inde l'année dernière, ce sont donc les États-Unis qui sont bel et bien mis à l'honneur de la Hannover Messe. Est-ce que c'est un hasard ? Certainement pas. Des affinités électives qui s'expliquent par la grande compétence germanique en ingénierie et le sens tout américain des nouveaux business models liés au traitement des données. Mais c'est aussi sur les standards que la guerre de l'industrie connectée est bel et bien en train de se jouer, une guerre où les deux principaux opposants, USA et Allemagne, sont en passe de se pacifié. Alors jusqu'à présent, l'Industrial Internet Consortium américain et la plateforme allemande Industrie 4.0 ont suivi des standards différents. En mars dernier, les deux se sont mis d'accord pour assurer une certaine compatibilité de leur système. Alors bien entendu, il existera toujours une compétition entre ces deux pays. Et la France dans tout ça, me direz-vous ? Eh bien, le gouvernement français lance un énième label, le label Creative Industry, pour la promotion de l'excellence industrielle française. Excellence industrielle française qui souffre, puisque le poids de l'industrie française est passé, pour rappel, de 16,6% en 2000 à 12,4% en 2014, d'après l'INSEE. Est-ce que la création d'une identité visuelle commune pour l'industrie française suffira à redonner des plumes à cette même industrie ? Rien de moins sûr.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Et on termine cet atelier numérique avec, vous le savez, le crash test d'Antoine Cyr. Antoine, cette semaine, vous avez choisi comme point de départ pour ce crash test le mot informatique.
Oui, le mot informatique, c'est encore un mot qu'on utilise régulièrement.
Ouais, un peu comme ordinateur,
comme
qu'on
ordinateur
a
qu'on a évoqué il y a quelques temps. Et on ne sait pas forcément d'où il vient. Alors, évidemment, informatique, c'est tout simplement un néologisme qui a été créé par contraction des mots information et automatique.
Eh oui.
Voilà. Qui a inventé ce mot ? Eh bien, c'est Philippe Dreyfus, qui était directeur du Centre National de Calcul Électronique de Bulle dans les années 50.
Hein,
donc, ce mot, comme son origine, fleure bon ces années. Vous savez, il y avait un plan gouvernemental qui avait été appelé le plan calcul, qui était un plan destiné au développement des ordinateurs. Mais à l'époque, quand on pensait ordinateur, on pensait à ces énormes machines.
Oui, bien sûr.
Qui étaient dans des salles, il y en a toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui, c'est des super calculateurs qui ont une puissance astronomique. Mais à l'époque, on avait besoin d'une énorme salle pour abriter un ordinateur
qui avait énormément de bruit,
voilà,
qui avait des bandes magnétiques.
Qui était capable de traiter à peu près autant d'informations que la moitié de votre PC, quoi. Donc on est donc en 1962 et en fait ce terme est utilisé pour la première fois dans le nom de l'entreprise créée par Philippe Dreyfus et qui est la Société d'informatique appliquée. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que Philippe Dreyfus, il est très gentil, il était même tellement gentil qu'il avait, il s'était abstenu, sciemment ou pas, de désigner le terme informatique en tant que marque.
Mmh.
Et donc, comme il n'a pas, il aurait pu déposer ce mot, hein, c'est lui qui l'a créé, il aurait pu le déposer, il aurait pu être propriétaire de ce mot, qui d'ailleurs, dans ce cas-là, n'aurait pas connu le même succès. Bon, donc du coup, c'est devenu un mot générique et l'Académie française s'est approprié le terme en 1967, donc 5 ans après son invention. Vous voyez que finalement, la capacité de réaction de l'Académie française n'est pas nulle, hein, parce que 5 ans après avoir été inventé par un homme seul, le mot devient un mot adoubé par l'Académie. Il est vrai qu'entre 62 et 67, l'informatique s'était beaucoup développé, et donc le terme est adopté par l'Académie pour désigner la science du traitement de l'information, ou plus exactement la science du traitement rationnel, notamment par des machines automatiques, de l'information considérée comme le support des connaissances humaines et des communications dans les domaines techniques, économiques et sociaux. Quand l'académie s'en mêle, ça rigole pas.
Non.
Comme nous le rappelle.
Ça plombe un peu l'ambiance.
J'ai trouvé ça sur un site qui s'appelle commentçamarche.net. Et donc, il y a eu cette explication de l'académie.
Cette définition.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'en 1968, le mot va être repris dans le discours du ministre d'un pays qui n'est pas des moindres, puisque c'est l'Allemagne, et ce ministre d'ailleurs était célèbre, c'était Monsieur Stoltenberg, qui décide d'employer le mot informatique, et donc d'un seul coup, paf, grâce à Stoltenberg, le mot passe dans la langue allemande. Et il s'est ensuite répandu... Il s'est ensuite répandu dans plusieurs pays d'Europe. Alors, en Norvège, c'est informatique aussi, mais il y a deux cas. En Hongrie, en Russie et en Slovaquie, c'est informatica. Aux Pays-Bas et en Italie aussi, mais cette fois-ci, il n'y a pas de cas, il y a un C. Voilà. Et en Espagne et au Portugal, c'est aussi informatica, mais il y a un accent sur le A, qui pour sans doute marquer informatica. Alors là, par contre, il y a un endroit où le mot informatique a fait, comme on disait autrefois, un bide complet. C'est dans le monde anglo-saxon, hein, puisque, comme vous le savez, les anglo-saxons préfèrent le terme computer science, science des ordinateurs, même si de temps en temps, en Grande-Bretagne, mais pas aux États-Unis, le mot informatics est quelquefois utilisé.
Tiens,
voilà. Alors, l'informatique a aussi évidemment débouché sur un mot contracté derrière, qui est le mot tic. Hein. C'est vrai que quand on dit l'éthique, on entend l'éthique. On entend informatique, donc TIC, c'est les technologies de l'information et de la communication. On disait à un moment NTIC, nouvelle technologie de l'information et de la communication. Ça a depuis disparu. On parle aujourd'hui de TICE. Technologie de l'information et de la communication pour l'éducation aussi, pour les cas où c'est utilisé dans cet univers. Chez les Américains, là, pour le coup, il y a la même pratique, puisque on emploie souvent ICT, Information and Communication Technology, évidemment abrégé en IT, hein, et aujourd'hui, c'est le terme IT qui est en train de prendre un peu le pouvoir, même par rapport à informatique qui, compte tenu de ses origines, les années du plan calcul, etc., fleure aussi un petit peu
le vintage.
Hein. Voilà. Alors,
c'est dingue comme il y a des mots comme ça, c'est vrai, qui vieillissent.
Parce qu'ils sont extrêmement datés. Alors, cela dit, l'informatique a quand même eu le temps d'être dans beaucoup de citations. J'en ai trouvé pas mal sur des dictionnaires de citations. Par exemple, des gens qui disent « Quelle prétention de prétendre que l'informatique est récente. Adam et Ève avaient déjà un Apple. L'informatique, ça fait gagner beaucoup de temps à condition d'en avoir beaucoup devant soi. La révolution informatique fait gagner un temps fou aux hommes, mais ils le passent avec leur ordinateur. Nous autres, mordus d'informatique, préférons par-dessus tout passer notre temps à bidouiller nos ordinateurs plutôt que les utiliser pour faire quelque chose de productif. L'informatique est géniale, même les emails, même si vous n'y répondez pas, ça ne prend pas de place.
On se rend compte aujourd'hui que ça prend de la place.
Ça prend quand même pas mal de place.
Une place virtuelle, on va dire.
Puis alors, il y a une citation avec le mot informatique que j'aime bien aussi, c'est la définition du mot cookie. Cookie, anciennement petit gâteau sucré qu'on acceptait avec plaisir, aujourd'hui petit fichier informatique drôlement salé qu'il faut refuser avec véhémence.
Oui, sacrément salé parfois, hein.
Absolument. Il y a encore d'autres citations. Il y a comme la Hongrie, le monde informatique a une langue qui lui est propre, mais il y a une différence. Si vous restez assez longtemps avec des Hongrois, vous finirez bien par comprendre de quoi ils parlent.
Voilà concernant l'informatique. Merci Antoine.
Ben, de rien.
Pour ce crash test. Et bien évidemment, on se retrouve samedi prochain, vous le savez, 16h, 18h, votre rendez-vous dédié à la high-tech et à l'économie numérique, l'atelier numérique. D'ici là, bien sûr, vous allez pouvoir retrouver cette émission en podcast.
Numérique, il faudra qu'on regarde aussi, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Hein, parce que chez nous, c'est numérique, alors que le mot anglais est digital.
Exactement.
Et le mot digital est en train de prendre le pouvoir.
À mon avis, ça vaut le coup de faire un petit crash test là-dessus et d'y réfléchir.
On va étudier la question.
Merci Antoine. On vous souhaite un excellent week-end, bien sûr, et on sera là samedi prochain dès 16h sur BFM Business. Salut à tous.